RMC Motors avec Motorsport TV, Jean-Luc Roy.
Et bonjour à tous, si vous nous rejoignez maintenant pour Motors, l'émission des sports mécaniques, vous le savez, c'est tous les dimanches entre 13h à 14h, un immense plaisir de vous retrouver pour parler de Formule 1, notamment aujourd'hui beaucoup du Grand Prix de Monaco, et puis une pensée et des bises à toutes nos mamans, et notamment les mamans des pilotes, je le dis généralement à cette occasion, parce que c'est vrai qu'elles ont du mérite de supporter effectivement leur rejeton. Donc dans un instant, nous allons parler de ce Grand Prix de Monaco, nous allons parler de la raison pour laquelle il fait rêver, nous allons parler des qualifs avec la pole de Ricardo. Nous allons parler de la magie de Monaco, mais tout de suite, c'est le tour de chauffe dans Motors.
RMC Motors, le tour de chauffe.
Monaco, c'est le circuit le plus lent, mais aussi le plus difficile.
Drapeau jaune dans le premier secteur.
Je suis très excité, j'ai hâte de vivre ce week-end, même si j'ai toujours un peu d'appréhension. Mais je mesure la chance qu'on a de rouler ici pendant 3 jours. On n'est que 20 dans le monde à pouvoir le faire.
Lewis Hamilton, lui, n'arrive pas à se rapprocher plus près de Sainz que cela. Et c'est compliqué de dépasser à Monaco.
C'est un Grand Prix qui se gagne à plus de 140 km de moyenne horaire. Et les pilotes effectuent pendant les 78 tours, soit 258 km, plus de 2000 changements de vitesse.
C'est un super circuit, très différent des autres, très technique, où il faut prendre des risques pour aller vite.
Valtteri Bottas qui est juste derrière Daniel Ricciardo. Valtteri Bottas qui pour l'instant ne parvient pas à prouver l'ouverture derrière l'Australien. Pas de dépassement, pas d'attaque.
L'important à Monaco, c'est de prendre le commandement. Prost passe une dernière fois. Il se retrouve premier devant De Angelis et De Cesaris.
Victoire de Lewis Hamilton. Victoire de Mercedes aujourd'hui dans les rues de Monaco.
C'est un rêve depuis enfant. Hein. J'ai toujours rêvé de faire ce Grand Prix-là. Donc ouais, il y a une grande émotion.
C'est pour la course.
Et c'est pour le spectacle.
Et voilà ce Grand Prix de Monaco évoqué en quelques sons, évidemment particulièrement mythiques. Il y en a plein, hein. Des moments, on en a tous connus, on en a tous vécu, et on va en reparler tout de suite en compagnie d'Adrien Tambay. Bonjour Adrien.
Salut Jean-Luc, salut à tous.
Et en compagnie de Lucas Vinois, le petit nouveau, je le dis à chaque fois, qui nous rejoint pour la Formule 1. Salut Lucas.
Salut Jean-Luc, bonjour à tous.
Alors Louis Amar n'est pas loin, hein. D'ailleurs à vous deux, vous avez recueilli pas mal de réactions sur ce Grand Prix de Monaco. Alors on le dit à chaque fois, Monaco évidemment c'est un écrin extrêmement particulier, Adrien, et je disais tout à l'heure dans les grandes gueules du sport à Christophe et à Sarah et aux invités, c'est vrai qu'on renie un petit peu tous les principes de la Formule 1, notamment en termes de sécurité, puisque les rails et les trottoirs, ça coûtait cher à Verstappen hier, mais quelle magie. Tu connais ça, hein.
Quelle magie. Et puis pour le premier Grand Prix de Lucas, il est déjà tombé amoureux 5 fois, donc
tiens donc, les Green Girls sont de retour donc à Monaco. Ça c'est une bonne nouvelle.
Oui, non, c'est trêve de plaisanterie, c'est un Grand Prix fantastique pour tous les pilotes. La majorité d'ailleurs des pilotes de Formule 1 vivent ici en principauté, donc ils ont un peu tous l'impression d'être chez eux dans ces rues. Et puis il y a toujours quand on est sur un circuit en ville, pour un pilote, on a toujours l'impression de pouvoir faire la différence que d'habitude par rapport à la prise de risque, par rapport à comme on l'entendait dans les réactions juste avant. C'est clair qu'il faut être le plus près des rails, parfois les toucher pour être rapide et en même temps ne pas faire d'erreur tout au long du week-end pour que le résultat s'en suive. Et Max Verstappen en a été la première victime hier.
Et il a beaucoup tapé, hein, Verstappen à Monaco, si on s'en rappelle, lors des 3 dernières éditions. Malheureusement, on va dire que le chemin n'a pas été linéaire, il a été semé d'embûches. Alors, est-ce que tu t'attendais à ça, Lucas? Parce que je vais te demander une réaction, voilà, humaine, c'est le cas de le dire, journalistique évidemment, mais est-ce que tu t'attendais à ça en venant à Monaco? Bon, tu es tombé amoureux 5 fois, c'est une très très bonne nouvelle, surtout en moins de 48 heures, mais d'un autre côté, est-ce que tu es tombé amoureux du circuit? Est-ce que cette magie de Monaco s'exerce sur toi aussi?
Oui, forcément, c'est extrêmement impressionnant. Les voitures vont très très vite. On est très proche aussi. On a une proximité incroyable ici en Principauté. Oui, de toute façon, il y a qu'à voir les sensations qu'on peut avoir en bord de piste quand une voiture passe dans la montée de Centre des Votes. On a les rails qui tremblent un petit peu. Et puis c'était encore pire à l'époque des V10. Mais c'est toujours très très impressionnant. Et puis alors il y en a qui touchent les rails et qui cassent comme Verstappen. Ah, oui. Mais OS de la piscine par exemple, ça touche à chaque fois, il faut caresser, frôler ce rail pour optimiser au maximum la trajectoire.
Absolument, et ça c'est extrêmement impressionnant. On l'évoquait avec Adrien, on va y revenir dans un instant, c'est du pilotage au millimètre, là on peut dire, c'est plus au centimètre, le centimètre c'est trop et c'est ce qui a coûté cher donc à Verstappen. On va écouter Esteban Ocon, le pilote français qui a été le plus rapide de nos représentants sur le tracé monégasque, long de 3 km 337, il faudra le parcourir sans faute à 78 reprises. Il a signé le 6e temps, Esteban Ocon, avec avec sa Force India. On l'écoute au micro de Louis Amar et de Lucas Vinoy.
J'adore Monaco, je trouve que c'est le plus bel endroit du monde, quoi. Vraiment j'adore. C'est un super circuit, très différent des autres, très technique et où il faut prendre des risques pour aller vite. Là, on amène encore des nouvelles pièces sur la voiture, donc on continue de progresser, on continue dans notre niveau de progression depuis le début de saison, ce qui est top. Donc voilà, on va essayer de avoir un week-end propre, le construire correctement, marquer de bons points, c'est l'objectif.
Et oui, c'est l'objectif. Alors Adrien, toi tu l'as vécu hein, dans d'autres disciplines que la F1, mais c'est pareil, tu parlais de la Formula 3.5, hein, ça allait aussi vite que la F1 il y a pas si longtemps que ça. C'est des grosses monoplaces, difficiles à mener, etc., avec peu d'assistance. Alors toi aussi, au volant, qu'est-ce qui fait la magie de Monaco? Je reviens toujours à cet exemple d'Ayrton Senna qui était impressionnant lors de sa pole où il colle une seconde et demie à Alain Prost, c'était en 88, et il dit qu'il sait... Vu, regardé, piloté, il avait l'impression d'être en dehors de son habitacle.
Je crois qu'en plus de ça, là on a Esteban qui parlait au micro et c'est quelqu'un qui est encore assez jeune. Donc les premières fois à Monaco pour les jeunes pilotes et pour moi à l'époque en Formule Renault 3 litres 5, c'était une excitation, les frissons quand ouais. On arrive sur qu'on fait le tour du port en fait de Monaco avec les rails à côté, tout le monde de la Formule 1 qui nous regarde. Les télés dans le monde entier et puis cette faculté à pouvoir justement faire la différence par une prise de risque, l'excitation d'aller effleurer le rail sans pour autant casser la voiture, c'est un sentiment c'est assez grisant au volant et puis c'est un état un peu second comme tu le disais effectivement souvent quand on est rapide ici on a l'impression d'aller doucement plus les gestes sont lents plus on est rapide plus on est en maîtrise de son sujet et c'est à ce moment-là qu'on va très vite mais c'est un peu le cas je dirais sur tous les circuits ici comme il y a des rails à droite et à gauche tout est démultiplié.
Et oui, puis on est très très proche effectivement de ces rails qui sont repoussés très loin maintenant sur les circuits traditionnels, je le disais, où les run-off de manière excessive hein, moi je le dis clairement là à certains endroits et beaucoup de pilotes sont d'accord avec ça. On va écouter Lewis Hamilton parler du tracé de Monaco, de cet endroit mythique également, Lewis Hamilton, qui a déjà signé la pole, mais pas tant que ça, et qui s'est imposé sur ce tracé. On va y revenir dans un instant.
How can you not be happy here in Monaco? I'm excited about the weekend.
Comment ne pas être heureux ici à Monaco? Je suis très excité, j'ai hâte de vivre ce week-end, même si j'ai toujours un peu d'appréhension. On ne sait pas comment la voiture va se comporter, comment les pneus vont fonctionner, ni comment la piste va évoluer. Mais je mesure la chance qu'on a de rouler ici pendant 3 jours. On n'est que 20 dans le monde à pouvoir le faire. C'est une course que je veux absolument gagner, comme chaque année. J'arrive ici mieux préparé que jamais cette saison, et j'espère que ça se verra dans ma façon de conduire.
Let's see if that relates to or kind of shows in my driving.
Et voilà, je vous le disais, pas si fréquemment que ça. Hein. En 2015, il avait signé la pole, effectivement, Lewis Hamilton. Il s'était imposé en 2016 sur ce tracé, un tracé qui ne pardonne rien. Il s'était imposé également en 2008, peu de temps après son arrivée en Formule 1. Alors, Lucas, toi qui as effectivement côtoyé aussi le paddock, qui est très particulier ici sur le port, hein, à côté, au-delà du circuit, des difficultés du tracé dont nous avons pas mal parlé, avec même le tunnel, on va en redire un mot, il y a cette ambiance qui est totalement atypique également, parce que c'est véritablement une course dans la ville.
Oui, c'est une course dans la ville et puis on a beaucoup de stars hein, forcément qui viennent, qui vivent ici à Monaco et qui profitent de ce rendez-vous un petit peu incroyable pour y participer. Alors c'est un petit peu moins le cas cette année puisque le festival de Cannes a eu lieu une semaine avant.
Oui, c'est ça.
Donc forcément un petit peu moins de stars, mais on se rend compte que ça dépasse largement le cadre du sport automobile. Voilà, on a énormément de personnes qui ne vont pas regarder forcément un Grand Prix pendant l'année et qui vont venir ici à Monaco et il faut pas avoir peur de le dire, c'est aussi une manière de se montrer ce Grand Prix parce que c'est le Grand Prix de la Jet Set également en plus d'être celui de la Formule 1.
Ouais, tout à fait, c'est le Grand Prix où il faut se montrer, se faire voir, notamment sur la grille de départ et on y aura droit tout à l'heure avec les grilles de gueule et je m'en réjouis une nouvelle fois puisqu'il y a certains organisateurs qui ont désobéi aux contraintes, j'allais dire, et à la décision unilatérale et ça c'est de Liberty Media et ça c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'on en apercevra en France à mon avis aussi. On en reparlera.
Jean-Luc, j'ai une petite news là-dessus. Apparemment, les Grid Girls viendront accompagner main dans la main avec un homme ici à Monaco. Bon. J'ai rencontré hier.
Tu avais posé ta candidature, Adrien, mais comme t'es avec nous à l'antenne, ça va pas
ça
être possible.
Difficile. Hein,
voilà. Allez, on peut en plaisanter là aussi quand même. Je crois qu'on a, on doit avoir le droit de dire ces choses-là. On va écouter un homme ou un garçon plutôt, hein, parce qu'il est encore très jeune. Il a 20 ans. Un garçon qui connaît par cœur les rues de Monaco. Il a toutes les raisons pour cela puisqu'il est né là. Il est de nationalité monégasque et c'est un événement extrêmement important puisque depuis Louis Chiron et depuis Olivier Beretta en 94, donc ça veut dire qu'il y a eu très peu de pilotes monégasques en Formule 1. On n'en avait pas eu. Il s'appelle Charles Leclerc. Écoutez-le au micro de Louis Amar et de Lucas Vinois.
Peut-être que je le montre pas tant que ça, mais bon, c'est un rêve depuis enfant, hein. Depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de faire ce Grand Prix-là. Donc ouais, il y a une grande émotion, mais j'essaie de la contenir et j'essaie de me concentrer au max sur le week-end.
Eh oui, il faut qu'il domine ça, effectivement, Adrien, parce que la pression, bon, elle est toujours optimale. Hein. Lewis Hamilton disait aussi assez souvent qu'effectivement, il se met lui aussi dans un état second au moment des qualifs. Alors ça n'a pas parfaitement fonctionné pour lui hier, hein, puisqu'il va partir de la deuxième ligne de la grille de départ, derrière Daniel Ricciardo et Sébastien Vettel. Mais bon, il y a des raisons aussi mécaniques qui veulent ça. Oui, je disais, Adrien, le départ à Monaco, est-ce qu'on peut dire parfois que tout se joue, ou allez, 50% de la course sur ces quelques centaines de mètres avant le virage de Sainte-Dévote?
Je pense que dans la situation, par exemple, d'un Ricciardo aujourd'hui en pole position, c'est probablement le moment où on peut faire l'erreur qui coûtera le plus cher, même si après il y a 78 tours à faire et passer 78 fois, par exemple, le virage de Massenet qui est en aveugle, un peu en dévers, on n'en voit pas la sortie, on arrive à plus de 200 km/h, c'est très très compliqué aussi. Mais ce moment du départ, ça reste le moment où il peut y avoir du patinage, il peut y avoir un départ raté, et plein de choses peuvent se passer, et puis perdre cette pole position si chère ici à Monaco. Donc c'est forcément, je pense, le moment où la pression est la plus haute, mais bon, ils sont tous préparés à ça, tous les pilotes, et je me fais pas souci d'ailleurs pour Daniel Ricciardo qui a déjà raté une occasion ici, mais c'était pas de son
fait. Non, c'était pas de son fait.
Exactement, donc bon, il est préparé à ça et je pense qu'il a très bien dormi hier soir.
Voilà, on le rappelle, Daniel Ricciardo qui était le poleman en 2016 et avec des conditions météo délicates, et dans son équipe, eh bien on avait foiré complètement le changement de pneumatique, y a pas d'autre mot, on ne trouvait pas les bons pneus au moment où Daniel Ricciardo s'est arrêté. C'était vraiment un moment rare, mais on a plaisir à voir que aussi en Formule 1, tout n'est pas réglé comme du papier à musique, et parfois il peut y avoir des soucis de ce genre-là. Alors, on va en venir à cette grille de départ, justement, maintenant, après vous avoir décrit autant que possible cette ambiance particulière qui règne dans la principauté de Monaco, et j'ai plaisir à souligner à chaque fois que le prince Albert de Monaco est un véritable passionné de sport mécanique, pour avoir pris part lui-même, notamment à des Paris-Dakar, il y a quelques temps, donc je pense que la pérennité du Grand Prix de Monaco est assuré pour très longtemps. On en vient à la performance de Daniel Ricciardo. Je l'évoquais il y a un instant, Lucas, c'est la deuxième pole qu'il signe à Monaco. Et on peut dire qu'il a dominé l'ensemble du week-end jusqu'au qualif.
Ouais, il a été exceptionnel en effet, dès les essais libres, en fait, dès la première séance. Ouais. On a vite compris ici en principauté que Red Bull serait extrêmement difficile à battre, pour la simple et bonne raison que déjà en Espagne, dans le dernier secteur extrêmement sinueux, les Red Bull étaient de loin les plus rapides, et ici on retrouve un circuit extrêmement sinueux, et donc les qualités de la Red Bull correspondent parfaitement en fait à ce type de tracé. L'arrière de la voiture pivote parfaitement pour bien s'inscrire en fait dans les virages serrés de Monaco, et on a senti en fait les deux pilotes Red Bull tout simplement facile la conduite, pas forcément pas besoin de forcer en fait pour aller chercher un temps. Il mettait 2-3 tours pour signer une belle performance quand les autres en mettaient 5-10 voire même 15. Donc voilà, la Red Bull ici est de loin la meilleure voiture. Ricciardo est un très très bon pilote, pas étonnant qu'il parte en pole aujourd'hui.
Mais oui, on a trouvé de l'appui, parce qu'on sait que c'est ce qu'on recherche avant tout, hein. À Monaco, dans les rues de Monaco, faut le maximum d'appui et d'adhérence mécanique et aérodynamique. On rappellera d'ailleurs cet exploit de Daniel Ricciardo qui a pulvérisé le record du circuit. 1 minute 10 secondes, 810 millièmes, écoutez bien, à comparer au record jusque-là établi par Kimi Raikkonen en 2017, il y a un an, alors que les machines avaient considérablement progressé, aussi s'étaient élargies, et notamment les pneumatiques, en 1:12.178, c'est dire que on a donc gagné 1,5 secondes pratiquement. On écoute Daniel Ricciardo parler de cette pole magnifique, de cette performance, au micro de Louis Amar et de Lucas Vinois.
Je suis venu ce week-end avec le même état d'esprit qu'en 2016 lorsque j'avais réalisé la pole. En arrivant ici, je savais que j'avais de bonnes chances de faire une bonne performance. Et lors de chaque séance, je me suis concentré au maximum, ce qui m'a donné une grande confiance. En qualification, je connaissais le plan pour aller vite. J'y suis parvenu et c'est super. Il n'y a plus qu'à finir le travail.
Alors, on a écouté, il y a un instant, Daniel Ricciardo sur cette performance, sur cette pole. Alors, il faut rappeler qu'effectivement, c'est un événement très très émouvant pour Daniel Ricciardo, Lucas, puisque ça n'est que la deuxième pole de sa carrière de pilote de Formule 1, même s'il compte 6 victoires maintenant.
Oui, en fait, Ricciardo, on l'a longtemps mis dans la catégorie, et même encore aujourd'hui, des opportunistes. C'est vrai qu'il n'a pas toujours eu la voiture pour gagner. Il est arrivé chez Red Bull après les grandes années de Sébastien Vettel, où Red Bull dominait complètement la Formule 1. Et donc, il n'a pas eu tant l'occasion que ça de signer des pole positions. Alors, il a 6 victoires, parce qu'à chaque fois, il a été, en effet, comme on le disait, très opportuniste. Notamment, je me rappelle d'un Grand Prix au Canada. Mais il est très rapide sur l'exercice d'un tour. Il domine souvent Max Verstappen, qui est aussi un client, et surtout il fait moins d'erreurs. Et là, dans un pilotage coulé, parfaitement précis, il sait une nouvelle fois, j'ai envie de dire, puisque sa première pole était déjà à Monaco, il partira une nouvelle fois en pole. Mais ça montre encore une fois les qualités de ce pilote, et c'est très très important pour lui personnellement, parce qu'on sait qu'il pourra peut-être prendre la place d'un certain Kimi Raikkonen en fin d'année.
Eh oui, ça chauffe. Hein. On écoute maintenant Lewis Hamilton. Alors, il partira de la deuxième ligne de la grille de départ. Pourtant, un moment après la première tentative, on a pensé qu'Hamilton pourrait monter sur la première ligne aux côtés de Daniel Ricciardo. On l'écoute, Lewis Hamilton.
Cette qualif n'était pas terrible. En Q1, c'était très bien. La Q2 était utile et m'a appris pas mal de choses. Après, en Q3, c'était plus difficile. Ma dernière tentative avait bien commencé, mais le temps n'était pas celui que j'espérais. Je crois que la voiture avait le potentiel pour aller chercher la deuxième place, mais j'essayerai de revenir en course. Je ne suis pas là pour limiter les dégâts, mais pour faire de mon mieux. On savait bien que les Red Bull seraient les plus rapides ici. Je vous avais dit il y a 15 jours qu'elles seraient dures à battre, et c'est le cas.
Et ben voilà, il l'avait dit, il avait raison Adrien, il n'y avait pas de problème. Alors justement, à propos de cette supériorité des Red Bull, je disais il y a un instant, eux ils ont su trouver de l'appui là où il fallait.
Bah, je crois que cette Red Bull a ici toutes les qualités pour être devant, et elle l'a démontré hier, le grip mécanique, le grip aérodynamique en charge maximale, et puis surtout le moteur Mercedes et le moteur Ferrari, qui sont peut-être quand même toujours un peu supérieurs, légèrement supérieurs au moteur Renault.
On parle de 40 chevaux je crois à peu près,
progresse, voilà, sur un circuit comme Monaco, on fait beaucoup moins la différence avec le moteur. D'ailleurs, le seul secteur où Lewis Hamilton était capable d'être devant et de faire du fuchsia, la meilleure marque absolue, et ben c'était le premier secteur, là où ça monte fort et où on a besoin de puissance après le virage de Sandevoort, avant Massenet, ce secteur assez court d'ailleurs, moins de 20 secondes. Voilà, c'est le seul endroit où vraiment Lewis Hamilton pouvait faire la différence. Dans tout le sinueux, c'est la Red Bull qui avait largement l'avantage, puisque la Ferrari, elle, de son côté, est devenue un peu moins courte en empattement que l'année dernière.
Voilà. Ouais, justement, on va écouter Vettel maintenant au micro de Lucas et de Louis sur la supériorité de la Red Bull. Vettel partira quand même en première ligne avec son deuxième temps aux côtés de Daniel Ricciardo.
Je déteste devoir répondre oui, mais je pense que je dois l'admettre. Ils étaient très forts, mais je pense aussi que le top 6 avec les 3 écuries de tête ont des chances de l'emporter. C'est très excitant et intéressant pour les pilotes, mais aussi pour les fans qui nous regardent. À Monaco, c'est difficile de dépasser, mais je pense qu'il y a quelque chose de particulier ici, en dehors de la piste, mais aussi sur la piste. Il y a toujours des chances pour que quelque chose d'incroyable se produise.
Effectivement, des choses incroyables peuvent se produire sur la piste pendant ces 78 tours de ce tracé de 3 km 337. On va faire un saut pas très loin des studios de RMC, puisque nous allons du côté de Roland-Garros. Vous le savez, l'un des tournois majeurs de la saison a débuté il y a quelques heures seulement maintenant. On va voir où en sont les Français avec Nicolas Bensoussan. Bonjour Nicolas.
RMC, Roland-Garros 2018.
Oui, bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Le point sur les Français, eh bien écoutez, j'aurais aimé vous annoncer le nom du premier qualifié du jour. Il n'en est rien pour le moment. Sur le cours 18, Grégoire Barrère est engagé dans un bras de fer avec Albot le Moldave. Cinquième set à le Français avait pourtant gagné les deux premières manches 6-4, 6-0 avant de perdre les deux suivants 7-5, 6-1. Il mène 1-0, il a bien entamé ce cinquième set. Sur le cours Suzanne Lenglen, surprise, Gaël Monfils vient de stopper l'hémorragie face à Elliot Benchérit, un autre Français. Il est mené 4 jeux, il était mené 4-0 il y a encore quelques instants. C'est Gaël Monfils qui est au service 0-30 sur son engagement. Il y a Amandine Hess sur les cours, ça vient de commencer, 2-0 break d'avance donc pour l'américaine Jennifer Brady. Et puis Alizé Cornet vient de faire son entrée sur le cours Philippe Châtrier. Alizé Cornet qui affrontera l'italienne Sarah Errani.
Et ben voilà, impeccable. Merci beaucoup Nicolas Bensoussan, on va te retrouver un peu plus tard pour suivre les efforts des Français et puis surtout on va continuer à parler du Grand Prix de Monaco dans Motors. Vous êtes sur RMC, plus que jamais la radio de la Formule 1, vous restez avec nous.
RMC jusqu'à 14h, Motors, Jean Lecroix.
C'est un vrai plaisir de vous retrouver dans ce Motors spécial Monaco avant le Grand Prix, le sixième de la saison 2018. Vous le savez, qui va mettre aux prises Daniel Ricciardo et Sébastien Vettel pour le run du départ, effectivement, avant ce virage de Sainte-Dévote. Mais pas seulement, on entre maintenant dans le Frenchies Corner.
RMC Motors, le Frenchies Corner.
Avec l'accent French's Corner. Bienvenue, welcome aboard. On va vous parler des pilotes français et on a raison d'en parler. Hein. On va commencer tiens, avec toi, Adrien, parce que Esteban nous a sorti une superbe performance, même la meilleure de la saison, on peut dire pour lui. Sixième sur la grille de départ à Monaco. On pensait sincèrement pas voir les Force India aussi bien.
Oui, en tous les cas, pour Esteban, c'est le meilleur résultat qu'il pouvait espérer avant d'arriver à ce Grand Prix. Et être le meilleur des autres, c'est pour lui un très bon point de départ. Il aurait pu n'aurait pas pu rêver mieux. Il a fait le boulot. En plus de ça, son coéquipier n'est pas juste derrière. Il a deux places, je crois, entre lui et Sergio Pérez. Il est neuvième. Donc voilà, il a réussi à mettre deux voitures entre lui et le pilote mexicain. D'ailleurs, on le voit, Esteban est en train de se diriger là en ce moment même entre la pit lane et le paddock pour retourner probablement déjeuner avant le Grand Prix et faire les préparations finales. Il est bien dans sa tête, il est bien dans ses baskets. Maintenant, ça va être important de concrétiser parce que pour l'instant, même si la performance est là depuis le début de l'année, il a plus de mal que Sergio Pérez pour concrétiser, marquer des points et c'est le plus important en Formule 1.
Ouais. On l'a croisé ce matin, Esteban, qui était plutôt confiant quant à un bon résultat cet après-midi. Il ne se met pas de pression. Il disait qu'il était assez étonné d'ailleurs de son tour. Il pensait pas avoir fait un tour exceptionnel en qualification. Et quand il a regardé son volant, il a vu P6. Alors il nous disait bon, j'étais un peu étonné, mais bon, c'est très très important pour lui parce qu'il a pas marqué de points. En plus, quasiment pas de points, un point je crois au classement. Donc ça fait 4-2 en sa faveur en qualification face à Sergio Pérez, qui il faut le rappeler est un client. Donc aujourd'hui, il va falloir marquer des points pour Esteban, mais en tout cas, il est confiant quant à la qualité de sa monoplace et de son pilotage.
Oui, puis on va rappeler, il était 15e seulement sur la grille en Australie, donc c'était la grosse déception. 9e ensuite à Bahreïn, 12e en Chine, 7e en Azerbaïdjan, 13e en Espagne. Donc vous voyez que c'est une très belle progression. On écoute Esteban Ocon au micro de Lucas et de Louis.
Elle était inespérée, on va dire. On savait pas du tout qu'on allait être si performant ici. Non, vraiment content. C'est presque à domicile. On est à Monaco. Pour moi, c'est l'endroit le plus beau du monde et l'endroit le plus chaud au monde aussi sur la piste. Donc voilà, c'est top. On y est. On est en par P6. On est en Q3. Voilà, on peut pas rêver mieux.
Ah bah c'est vrai que être effectivement derrière la bande des six, hein, puisque c'est comme ça qu'on dit en Formule 1, Adrien, c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire derrière évidemment les deux hommes. Alors juste le bémol, la bande des six, bah il y a Verstappen, mais Verstappen il partira tout en fond de grille. Tiens, on va commencer juste un mot là-dessus, Adrien, si tu veux bien, il va falloir s'attendre à une remontée météorique, hein, je pense, de Max Lamennais.
Je pense qu'il va nous mettre le feu, Max Verstappen. Ouais. Et même si ça devait être un Grand Prix ennuyé aux avant-postes, je pense que ça sera pas le cas. Mais effectivement, il sera lui dans une remontée fantastique. En tout cas, il va prendre tous les risques une fois de plus, c'est sûr. Même si je pense que chez Red Bull, on doit lui mettre la bride un peu au cou, parce que forcément, ça commence à faire un peu. Je suis persuadé qu'il tentera le tout pour le tout, et au niveau des dépassements, il ira trouver combler les trous là où il y en a pas forcément. C'est dans ses gènes et c'est un vrai attaquant. Il lâche jamais rien non plus, donc il va nous faire une belle course, j'en suis persuadé.
Alors on vous disait qu'on a beaucoup de chance cette année en Formule 1 puisqu'il y a effectivement l'arrivée de Sanfrey. Esteban Ocon, il est là depuis la deuxième partie de la saison 2016. Et puis vous le savez, il y a Pierre Gasly et Pierre Gasly, il est dans le top 10 puisqu'il s'est qualifié 10e avec sa modeste Toro Rosso à moteur Honda. On va l'écouter sur l'importance du départ à Monaco, toujours au micro de Lucas Vinoit et de Louis Amar.
Le plus important, ça va être de prendre un bon départ. C'est sûr que ça fait la différence. Après, c'est très compliqué de dépasser. La stratégie, on va voir un peu ce qui est possible, soit de rentrer tôt, rentrer tard. On va voir en fonction de comment la course se déroule. Après, c'est sûr que la qualif est le plus important. Maintenant, il peut se passer plein de choses. C'est Monaco, c'est une erreur est très vite faite. Donc, il va falloir rester concentré, tout donner et aller chercher des points.
On peut dire sans complexe, ça te va, Lucas, pour Pierre Gasly, qui croit en sa chance. Effectivement, il a raison, pourquoi pas. Lui qui a totalisé 12 points à Bahreïn, hein, il faut le rappeler à ce moment de l'histoire, parce que il sait qu'il peut le faire.
Mais complètement, il fait un super début de saison, Pierre Gasly. La monoplace lui convient. Alors il y a eu des grands prix un petit peu plus difficiles que d'autres, mais en tout cas quand la monoplace fonctionne, il arrive parfaitement à l'exploiter. Donc tout va bien pour Pierre Gasly, qui a déjà montré à Monaco qu'il était à l'aise, et il le prouve encore une fois. Dixième, c'est peut-être la performance maximale. Il a tiré le potentiel maximum de cette monoplace ici en Principauté. Il va partir dixième. Dixième, c'est une très très bonne place, et espérer qu'il y ait un peu de grabuge devant lui pour aller chercher un petit peu plus de points. Mais encore une fois, c'est très important parce que Brendan Hartley, lui, n'a pas passé le cut. Il part 15e, et dans ce duel des coéquipiers, surtout sur sa première saison complète en Formule 1, en tout cas on l'espère, mais pour l'instant c'est bien parti, il domine totalement de la tête et des épaules Brendan Hartley, et c'est ça l'important. Il va vraisemblablement marquer encore des points aujourd'hui, et ça c'est bien pour son employeur.
On va croiser les doigts, effectivement, puis ce qui est important, tu parlais de progression, et on l'évoquait depuis le début de la saison, c'est que Pierre a progressé entre la Q1, 1-12-941, la Q2, 1-12-313, et enfin la Q3, 1-12-221. Donc ça, c'est génial, ça veut dire qu'il résiste parfaitement à la pression. Alors, vous allez pas nous en vouloir, une nouvelle fois, on va pas s'excuser à chaque fois d'inclure Charles Leclerc dans ce panel des Frenchies. On va l'écouter sur l'émotion de cette course. C'est peut-être les minutes les plus excitante de sa vie de pilote à Charles Leclerc actuellement, on l'écoute.
J'ai juste hyper hâte d'être sur la grille demain et voir le résultat final de la course. Ça va être une émotion particulière quand je serai sur la grille. Le rythme course a été super bon jeudi, contrairement au rythme qualif qui était moins bon. Donc j'espère que ce sera pareil demain, et j'espère qu'on va réussir à ramener encore quelques points.
Et je sais qu'il nous écoute, je n'oublie pas d'envoyer un salut amical à Patrick, bien sûr. Patrick Tombé, mon vieux complice qui est avec nous. Je sais qu'il est du côté du Paul Ricard, je crois, pour voir des courses de voitures anciennes. Mais il a l'oreille collée à RMC, c'est certain. Adrien, on en revient justement sur l'émotion de Charles Leclerc et le fait d'arriver quelque part. On va pas dire que c'est un achèvement, c'est le début d'une belle histoire, au contraire, pour Charles.
Ouais, c'est fantastique ce que Charles Leclerc est en train de vivre aujourd'hui. Je crois que c'est le rêve de tout jeune pilote, et effectivement il a toujours tout fait pour ça. Il a travaillé dur pendant toute son adolescence, sa jeunesse, et il a eu les résultats pour. Il a tout fait bien dans toutes les cases, et aujourd'hui il se retrouve dans cette position là à la maison. On sait qu'il habite juste derrière le premier virage de ce tracé de Monaco, et forcément une pression peut-être un peu supérieur quand même à la normale ici à Monaco, même si il a l'air de très très bien la gérer. Il a déjà mis une belle pilule à son coéquipier Marcus Ericsson comme d'habitude, mais ici encore plus, et c'est la première fois qu'il est ici au volant d'une Formule 1, donc c'est quelque chose de spécial, et ça démontre une fois de plus sa qualité.
Mais pour rebondir sur ce que dit Adrien, il est impressionnant de maturité, Charles Leclerc. Franchement, on peut le comparer à Max Verstappen. Il a 20 ans. Il arrive il a eu énormément de sollicitations médiatiques. Forcément, il habite, comme le disait Adrien, juste à côté du circuit, mais il reste concentré. Il sait ce qu'il a à faire, il sait qu'il ne faut pas trop pousser pour pas se mettre dans le rail. Il arrive à tout gérer. Il faut quand même rappeler que avec une modeste Sauber, c'est l'écurie la moins performante du plateau, il faut encore le rappeler. Ça fait deux courses d'affilée qu'il est dans les points. C'est exceptionnel ce que fait Charles Leclerc depuis le début de saison, et encore hier, il a tiré le maximum du potentiel de sa monoplace. Il va partir en bonne position, 14e, et peut-être si une stratégie favorable se décante pour lui, il pourra peut-être aller chercher des points à domicile. Mais vraiment, il faut souligner en tout cas la performance du pilote.
Bien sûr, tu as raison de le rappeler. Il a marqué des points, effectivement, Charles Leclerc, et ça n'est pas rien. Et c'est déjà le pilote monégasque qui en a marqué le plus dans le cadre du championnat du monde, puisqu'il y avait Louis Chiron, il y a eu également Olivier Beretta. Et on n'oubliera pas, je n'oublie jamais, Jules Bianchi, qui s'était illustré ici même et dont on sait que c'était en quelque sorte le petit frère de cœur, hein, par rapport à Charles Leclerc, qu'il avait pris sous son aile, qu'il avait beaucoup aidé et qui avait terminé 9e de ce Grand Prix de Monaco en 2014 pour se battre pour son écurie. Allez, on va écouter.
Et d'ailleurs, si vous êtes dans le coin, pardon Jean-Luc, je te coupe, mais la famille de Jules a un stand dans les rues au-dessus de la ligne droite de départ à Monaco au profit de l'association Jules Bianchi et vend pas mal de choses. Donc allez les voir, ils sont tous là et fidèles au poste et tous très très courageux. Voilà.
Et voilà, on a une pensée pour Jules et évidemment pour toute sa famille. On le sait bien, pour son papa Philippe et tous ceux qui l'entourent. Alors, on va écouter maintenant les ambitions de Esteban Ocon. On l'a entendu tout à l'heure sur sa performance, effectivement, aux essais. On va maintenant l'écouter, toujours micro de Lucas et de Louis, parler de ses ambitions pour la course. C'est le moment où jamais on est plus loin du départ.
L'ambition de marquer des gros points, hein. On part P6, voilà, c'est parfait. Maintenant, il va falloir pousser pour garder cette position, essayer de bénéficier un peu des conditions de course, voir ce qui va se passer. Donc voilà, je suis en bonne position, je suis content où je suis.
Voilà, il est content, effectivement, il est en bonne position. Il va falloir passer au travers des embûches, c'est le cas de le dire, et notamment le freinage, vous le disais, de Saint-Devot qui conditionne cette montée de Beau-Rivage et ce virage de Massenet, parce qu'il y a plein de lieux mythiques, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure dans le cadre du Grand Prix. Il y a Mirabeau, évidemment, il y a l'épingle dite du Leuve, enfin, ou du Grand Hôtel, comme vous voulez, le virage du Portier, le tunnel, enfin, je vais m'arrêter là, puis finalement, je vais avoir fini le tour. Donc, on va terminer par le troisième et dernier pilote français qui partira bien loin sur la grille, 18e. À la suite d'une pénalité qu'il a frappée, vous le savez, consécutivement à son accrochage et son accident dans le troisième virage du Grand Prix de Barcelone. Alors il est évidemment un peu dans un tunnel, c'est le cas de le dire, Romain Grosjean. On l'écoute au micro de Louis et de Lucas parler de ses ambitions à Monaco, même en partant 18e.
C'est Monaco, tout est possible dans un sens comme dans l'autre. On peut partir 18 et 19 et finir 18 et 19 comme on peut. Je me souviens 2014, j'étais dernier après le premier tour parce que je m'étais fait rentrer dedans, j'avais une crevaison et puis j'ai fini 8e. Donc voilà, tout est possible. Mais on verra comment ça va se goupiller. On va attendre et puis je sais qu'au Canada ça ira mieux.
Oui, il essaie effectivement de passer entre les gouttes. Tiens, la transition est toute faite peut-être, Lucas, puisque je crois qu'il y a peut-être des menaces. En tout cas, le ciel se charge un petit peu du côté de Monaco.
Oui, on a un peu perdu en luminosité, mais un certain Adrien Tambay à côté de moi, expert météo, me dit qu'il ne pleuvra pas. Donc,
Adrien Delia
peut-être. Ouais, voilà, il y a 60% d'humidité. Moi, je me dis que peut-être il pourrait y avoir un petit peu de pluie.
Vous entendez le tonnerre pourtant.
Oui, voilà, c'est ça. Non, mais ouais. Il pourrait peut-être y avoir un petit peu de pluie. Je ne sais pas, mais bon, en tout cas, ça pourrait vous pimenter un petit peu la course, ça c'est sûr.
Alors, Adrien, la transition est toute trouvée. Je la préparais depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a tempête sous un casque chez Romain Grosjean? Est-ce que c'est le tonnerre qu'il entend, lui, sous son casque intégral? On essaie de positiver, mais quand même, 9 Grands Prix sans points, les 5 premiers Grands Prix de la saison sans points, dominés par son équipier. Est-ce que c'est un tournant dans la carrière de Romain Grosjean?
Il y en a eu plusieurs des tournants dans la carrière de Romain. Il a su d'ailleurs rebondir. On lui a donné une chance de plus à un moment donné où on pensait que c'était terminé en Formule 1. C'était une chose de très rare d'ailleurs. Et on pourrait penser qu'il a appris de tout ça. Malheureusement, là, en ce moment, c'est un peu bis repetita, même si il met pas en danger la vie de ses collègues comme il l'avait pu peut-être le faire à Spa.
Le tête à queue au milieu du paquet avec le rideau de fumée à Barcelone, là, moi j'ai eu peur. Hein. Pour lui,
franchement,
franchement,
ce n'était pas forcément tout à fait pareil, puisqu'à Spa, il avait oublié de freiner. Bon, là, il a commis une erreur et il s'est retrouvé au milieu du paquet.
Ouais, dans tous les cas, là, on peut sauter sur les freins et dégager la trajectoire. Enfin,
dans tous les cas, je veux pas l'accabler parce que
ça sert à rien.
On sait à quel point la vie d'un sportif de haut niveau que Romain est, oui, peut être compliqué au niveau mental, et je pense que Romain est dans une situation compliquée en ce moment même, dans une spirale très négative, et il lui faut un bon résultat. Alors malheureusement il arrivait là avec une pénalité sur la grille, la monoplace, la Haas était plutôt performante en FP1 au début, et puis bizarrement ils ont tous les deux avec Magnussen rencontré des soucis, ils se retrouvent tous les deux à partir très loin. Bon, il a été devant Magnussen en qualif, donc c'est pas la moindre des choses, puisque Kevin Magnussen est quand même un pilote très rapide. Oui. Maintenant, il va falloir que ça tourne pour Romain. Je crois que Lucas. Bah,
oui. Le problème de Das aujourd'hui, c'est qu'il manque un petit peu de pièces et leurs deux voitures ont un fond plat qui est un petit peu endommagé et forcément quand on connaît l'importance du grip ici à Monaco avec un fond plat endommagé, c'est très très compliqué d'aller chercher de la performance. Les deux pilotes, ils le savent, ils ne l'ont pas caché quand on a pu discuter avec eux. Ils savent qu'ici à Monaco, ils n'attendent rien sauf peut-être un miracle pour aller chercher quelque chose. Et comme on a entendu Romain tout à l'heure, Grosjean le dire, voilà, ils se tournent vers le Canada.
Oui, allez, on va essayer de passer entre les gouttes, même si elles ne tombent pas sur le tracé de Monaco aujourd'hui. Effectivement, vous avez écouté les Français. Non, ça c'est même pas du côté de Paris d'ailleurs, ça c'est une petite plaisanterie. Et vous êtes bien dans Motors, vous êtes bien sur RMC. On a encore la dernière ligne droite de l'émission pour vous parler plus seulement de Monaco, mais aussi, vous allez le voir, d'une piste magique, d'une piste magnifique, des 500 miles d'Indianapolis. Le départ, ce sera 18h. Et il y a deux Français qui sont très bien placés, Pagenaud et Bourdet. On en parle dans un instant avec Benoît Boutron. Mais vous restez avec moi, bien évidemment, à Monaco. À tout de suite.
RMC jusqu'à 14h, Motors, Jean Lecroix.
Allez, on y revient dans ce Motors tout de suite. On va parler de sport mécanique et différents sujets, mais aussi de F1 avec Benoît Boutron. Mais avant, je vous rappelle qu'évidemment, pendant les 15 jours du tournoi de Roland-Garros, RMC, plus que jamais, la chaîne et la radio du tennis. Vous aurez toutes les nouvelles en permanence, les nouvelles de tous les matchs. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire tout de suite avec Nicolas Bensoussan. Mais je crains, Nicolas, que ce ne soit pas pour une bonne nouvelle concernant au moins un Français, c'est bien ça?
Oui, effectivement, c'est la première défaite du jour, celle de Grégoire Barrère, titulaire d'une invitation, d'une wildcard sur ce tournoi de Roland-Garros sur le court 18. Il a rendu les armes en 2h30 de jeu, en 5-7 face à Radu Albot. Il a coincé physiquement tous ses jeux dans le troisième set, perdu 7-5. Ensuite, il a pris 1 et 2 dans les 4e et 5e set. Défaite donc de Grégoire Barrère. Nos yeux sont maintenant tournés sur le court Suzanne Lenglen, puisqu'Eliott Benchetrit, 19 ans, 302e mondial, a pris le premier set, lui, face à Gaël Monfils.
C'est étonnant.
Au milieu de la deuxième manche.
Ah oui, merci beaucoup. Nicolas, on retrouvera des nouvelles de Roland-Garros évidemment un petit peu plus tard dans l'après-midi avec Arnaud Souk. Tout de suite, eh bien vous le savez, c'est la dernière partie de Motors, c'est Radio Paddock bien sûr.
RMC Motors.
World champion! Oh my god! I can't believe it! Thank you so much guys!
Radio Paddock.
Et ben voilà, avec Benoît. Bonjour
et
Benoît.
Oui, salut Jean-Luc. Salut Adri, salut à tous.
Salut Benoît.
Salut Benoît.
Alors ce Radio Paddock, messieurs, Évidemment, on va pas forcément parler de Formule 1. On a pas mal d'actu dans les autres disciplines. Lucas, excuse-moi, je t'avais pas entendu, donc je te salue toi aussi.
Il est là.
Et on va parler d'une discipline que vous connaissez bien tous les trois. C'est le WRC, avec cette nouvelle hallucinante cette semaine. Chris Meek, qui est éjecté de Citroën. Un communiqué a été publié cette semaine avec effet immédiat. Je vous lis quand même ce communiqué. Je le trouve d'une violence extrême. En raison de trop fréquentes sorties de route, dont certaines particulièrement violentes auraient pu avoir de lourdes conséquences pour la sécurité de l'équipage, alors que la prise de risque n'était pas justifiée par des enjeux sportifs, le team Citroën Racing a décidé de mettre fin à la participation de Chris Meek et de Paul Nagel, son copilote, au championnat WRC 2018. On n'aura plus Chris Meek en WRC cette saison chez Citroën.
Alors écoute, on va demander aussi à Adrien évidemment de réagir. Moi je suis aussi choqué comme tu l'es par les termes de ce communiqué. On peut se séparer d'un pilote, est très dur. Alors évidemment c'est Pierre Budard, il faut le nommer. Exactement. Qui est le nouveau patron à la suite d'Yves Maton. Alors moi comme toujours j'ai pas l'habitude d'avoir la langue de bois, donc je ne l'aurai pas. On sait que Yves Maton protégeait effectivement Chris Meek. Chris Meek est un pilote extrêmement rapide mais coutumier de sorties de route extrêmement violentes, et c'est vrai que peut-être la dernière au Portugal quand on voit l'état de la voiture, effectivement on se demande comment ils en sont sortis indemnes. Ils ont quand même été emmenés tous les deux à l'hôpital pour contrôle, mais bon, la détailler comme ça et dire il est sorti surtout pour rien en fait en attaquant, ça c'est cruel. Je trouve qu'on pouvait se séparer de Chris Meek avec un minimum de respect dans les termes, en disant on l'avait prévenu, disons qu'il n'a pas rempli la mission et les résultats qu'on attendait de lui, et puis voilà. Alors Adrien, toi qui es pilote évidemment, qu'est-ce que tu penses de d'abord du fait de séparer lui en cours de saison comme ça. Et puis quand même des termes de ce communiqué très violent, Benoît a raison.
Bah, je crois que c'est pas acceptable. D'un point de vue du pilote, c'est la chose qui a de plus dur de se faire comme ça sortir en pleine saison. Maintenant, je pense que ça doit cacher des problèmes en interne. Il doit y avoir quelque chose derrière ça, parce que pour prendre une décision aussi raide à ce moment-là de la saison, alors que Chris Meek est la seule star à part Sébastien Loeb qui vient parfois faire des piges. Mais sinon, c'est qui sont les pilotes de Citroën en championnat du monde des rallyes, parce que le grand public ne connaît que Chris Meek et Sébastien Loeb, donc il doit vraiment y avoir, je pense, une vraie raison derrière tout ça, peut-être même budgétaire. Peut-être que les casses de Chris Meek ont mis la situation du motorsport chez Citroën dans une la situation est devenue compliquée, peut-être budgétairement.
On a déjà tout cassé pour la saison, quoi.
Voilà. Demandez
aux autres pilotes de terminer maintenant.
Peut-être que c'est ça. Non, mais peut-être que c'est aussi dur que ça. Ouais.
T'as raison. Un mot, Lucas?
Oui, je suis pas très très étonné de cette décision, puisque ça commençait à faire beaucoup pour Chris Meek.
Ah, c'est clair qu'il les a.
Ça devenait dangereux.
Non plus, hein.
Voilà, mais par contre, je pense qu'on s'accordera tous sur la forme. C'est pas la bonne façon de le faire. Chris Meek était un pilote respectueux.
C'est du rallye, et puis on assume ses choix. On a pris Chris Meek, on le garde jusqu'au bout.
Allez, je vous passe un peu parce que Benoît a d'autres sujets et des beaux à nous proposer.
Et des sujets qui vous passionnent.
Il est beau le deuxième.
Vous le savez, c'est une grande journée de sport auto. Évidemment, on aura le Grand Prix de Monaco à 15h10 sur RMC avec vous trois d'ailleurs aux commentaires. Ça va être top. Et évidemment, on a un autre événement incroyable, les 500 miles d'Indianapolis. On parle d'une des courses les plus prestigieuses du sport auto, hein, Jean-Luc.
Ah oui.
Avec justement ce Grand Prix de Monaco, les 24 heures du Mans, ça fait partie du top 3 des courses automobiles dans le monde, ces 500 miles. Et on a des Français qui sont très bien placés. Ça nous fait plaisir, parce qu'on les a souvent eu d'ailleurs à l'antenne de Motors. C'est bien sûr Simon Pagenaud et Sébastien Bourdais. Pagenaud partira deuxième, juste derrière Ed Carpenter. Il a longtemps cru qu'il pouvait tenir la pole position de ses 500 miles d'Indianapolis. Finalement, il a été devancé par Carpenter, qui lui aussi a une histoire particulière. On pourra en parler dans une autre émission. Belle perte de Sébastien Bourdais, qui est cinquième effectivement, qui revient
aussi
à la compétition après un accident très grave. Mais on va se régaler sur ces 500 miles d'Indianapolis, Jean-Luc.
Absolument. Alors, comme il nous reste 3 heures dans Moteur, je peux m'étaler sur le plaisir, effectivement, vraiment la joie, la jubilation même, je peux dire, de voir ces deux pilotes français. Bon, Simon Pagenaud, il a pas eu de chance vraiment à Indianapolis aux 500 miles depuis 2 ou 3 saisons. Il est capable de gagner, capable d'aller très vite, et il a toujours un problème mécanique ou dans les stands, bref, qui vient briser la mécanique. Là, il parle du milieu, puisque les grilles sont de 3 pilotes, hein, à Indianapolis. Il a 33 pilotes au départ. Donc, il part du milieu de la première ligne avec une Penske. Écoute, je l'ai félicité après sa pole. Il m'a envoyé immédiatement un message en me disant c'est un avion de chasse. Donc tu vois, en parlant de sa voiture, donc là tout est dit. Quant à Sébastien, et puis après je vais laisser Adrien aussi s'exprimer. Quant à Seb Bourdais, on se rappelle de ce crash à 370 km/h à l'entrée du virage numéro 2 il y a un peu plus d'un an à peine, qu'il avait laissé briser le bassin, le fémur. Enfin, il avait été très touché. Là, il a relevé le gant déjà. Il a repris la compétition à peine 2 mois après la saison dernière. Et là, il signe le 5e temps au milieu de la 2e ligne. C'est génial. Ouais. Adrien, là, je crois qu'on va vibrer, hein, juste après Monaco.
Bon, on va vibrer. C'est une des courses, sinon, c'est une des courses les plus fantastiques du sport automobile d'un point de vue global. Et je pense que on a des bons Français en bonne position pour aller l'emporter. Maintenant, c'est très stratégique aussi, et la course est très très longue.
C'est les 50 derniers tours qui comptent.
On a un événement évidemment sur ces 500 miles. Vous le savez, c'est le départ de la star Danica Patrick, la femme, qui représente justement les femmes dans cette catégorie. C'est quand même une légende du sport auto qui va s'en aller. 36 ans, Danica Patrick, la première femme justement à avoir remporté une course dans cette catégorie, c'était au Motegi au Japon en 2008. Elle va quitter donc le sport auto après cette course. Elle a réalisé d'excellentes qualifications aussi, puisqu'elle partira 7e. C'est quand même un événement.
Ah, c'est très étonnant même, hein. Elle a été extrêmement rapide.
Et c'est une star aux États-Unis évidemment, donc une légende du sport auto s'en va. Et on est un peu triste, c'est vrai, parce que Danica Patrick est en plus charmante. Donc voilà.
Écoute, alors je sais plus maintenant ce qu'il faut dire ou pas dire.
dire, effectivement, ouais, en plus de ses qualités de pilote.
Je vois ton œil qui brille.
Mais oui, non, mais elle est tout à fait charmante, elle est rapide, elle est intelligente, et c'était un porte-drapeau.
Exactement.
Et ça démontrait aussi que, justement, le sport automobile, c'est pas qu'un sport de macho et de mâle. Et là, espérons pour Danica, qui part septième, et c'est une très belle qualif aussi. Ça veut dire que, sur les trois premières lignes, eh bien, on aura, au milieu de la ligne, on aura Simon Pagenaud, on aura Sébastien Bourdais, on aura Danica Patrick.
Et juste une info de MotoGP pour terminer. Ouais. On va avoir Marc Marquez qui va s'essayer à la Formule 1. Il est invité par Toro Rosso.
C'est génial.
Sur le Red Bull Ring, ça sera le 5 juin prochain. Ça va être fantastique. Marc Marquez va donc piloter une Formule 1 avec Dani Pedrosa et Antonio Cairoli, qui est une légende également italienne du motocross. Ils vont être drivés et ils vont tester donc ces Formule 1 avec Marc Weber et Niki Lauda, qui sont invités aussi. Ils vont faire les parrains de cette opération.
Génial.
Mais encore une belle OP Red Bull, puisqu'on rappelle que Red Bull, c'est un des sponsors de Marc Marquez.
Bien joué. Merci beaucoup, Benoît, pour toutes ces infos. Il y en avait des belles. Merci à Adrien, merci à Lucas. On se retrouve tout à l'heure, évidemment, à partir de 15h environ, un peu après. Mais je vais passer le volant. Ah, voilà, le volant dans les rues de Monaco, mais j'adore ça.
Tu m'avais passé le guidon de ta moto la semaine dernière.
Oui, c'est vrai. Là, je te donne le volant dans les rues de Monaco. Fais gaffe.
Alors, écoute, je vais le garder parce que moi, ça me dirait bien de faire un petit tour de circuit.